nous allons maintenant passer à une deuxième conférence qui concerne aussi le sacrifice. Et je crois qu'il faut vraiment louer la sagesse des organisateurs d'avoir mis ces deux conférences comme ça l'une après l'autre, parce que ce que Madame Vinciane Pirenne-Elforge va nous présenter maintenant s'attache justement, en ce qui concerne son sujet, aux dernières conclusions que Madame Elroth a prononcées sur la communication, hein, parce que c'est justement la communication qui va être au centre de la conférence de Madame Vinciane Pirenne-Elforge, chacun à sa place, mais en créant des liens, la communication dans l'opération sacrificielle. Alors pour vous présenter Madame Pirenne brièvement, alors elle est chercheure au FNRS à l'Université de Liège, et tout le monde dans cette salle, si j'ose dire, a certainement profité énormément déjà de beaucoup de ses travaux, notamment son grand livre sur l'Aphrodite. Maintenant, alors, elle travaille plus particulièrement sur le fonctionnement du politisme grec et la représentation des dieux grecs. Et elle vient de publier, là je suis vraiment très curieuse de le lire, un ouvrage sur Pausanias et la religion grecque dans les suppléments de Kernos. À vous.
Merci. Bien, je voudrais à mon tour remercier très vivement les organisateurs de m'avoir associé à cette relecture de Vernant. Dans la mesure où je n'ai pas eu la chance de fréquenter véritablement Jean-Pierre Vernant, je n'ai fait que le croiser lors de quelques colloques. Et donc c'est un grand honneur pour moi d'être associé aujourd'hui à cette rencontre. Au mois de mai 1973, s'est tenu à l'université d'Urbino un colloque international intitulé « Il mito greco ». Publié 4 ans plus tard, vous avez la référence sous les yeux, le volume qui est sorti de cette rencontre rassemble bon nombre d'articles qui ont fait date, mais aussi d'intéressantes discussions. C'est toujours très bien dans les actes de colloque d'avoir les discussions qui permettent de saisir aujourd'hui certains enjeux méthodologiques et théoriques de l'époque. Ainsi voit-on dans ces discussions Jean-Pierre Vernant s'interroger sur l'étiquette d'école de Paris, accolée au groupe qu'il forme avec Marcel de Tienne, Jean-Louis Durand et d'autres. Discuter encore celle d'école de Rome, associée à Angelo Brelich, ou déclarer à Jean Rudart, qui avait fait le voyage depuis Genève pour l'occasion, qu'ils pourraient bien être plus proches l'un de l'autre que Rudart ne le pensait lui-même. On voit également se profiler d'intéressants écarts entre une manière anglo-saxonne de se pencher sur les mythes et le religieux en regard d'une tradition davantage francophone, et ces différences sont surtout soulevées dans des discussions que Jean-Pierre Vernant a avec Geoffrey Kirk. Et si je mentionne ce volume, c'est aussi parce que l'on y trouve la première analyse par Vernant du mythe de Prométhée, dont il explorera bien plus largement les diverses implications dans la cuisine du sacrifice en pays grec, publiée en 1979. Alors l'ironie qui s'attache souvent à l'histoire de nos disciplines veut que ce soit précisément ce volume qui a consacré aux yeux du monde des antiquisants l'existence de la dite école de Paris. Et l'article de Vernant, en l'occurrence, donc vous avez les références, est le plus long du volume et s'intitule donc « À la table des hommes, mythe de fondation du sacrifice chez Hésiode ». Entre les deux, entre le colloque sur Il mito greco et la publication de La cuisine du sacrifice, Vernant avait prononcé sa leçon inaugurale au Collège de France. C'était en décembre 1975. Et il s'était alors plié entre les murs qui nous entourent aujourd'hui à l'exercice programmatique de circonstances. Et je repartirai de la partie de ce texte, donc la leçon inaugurale, qui traite du sacrifice pour 4 raisons. La première tient à la date, qui situe cette réflexion dans le même cadre chronologique que la cuisine du sacrifice. La deuxième raison vient du fait que l'exercice particulier de la leçon inaugurale impose la concision et la nécessité de dire l'essentiel, ce qui donne un intéressant matériau pour une relecture en 2008. La troisième raison vient du fait qu'en août 1980, lors des entretiens de la Fondation Arte sur le sacrifice dans l'Antiquité, Vernon citait longuement un extrait de cette leçon de 1975 en concluant sur le constat que, je cite, « cette lecture lui semblait toujours fondée ». La décennie 70-80 est donc le moment clé de sa réflexion sur les questions sacrificielles. Enfin, la quatrième et dernière raison, de partir plutôt de la leçon que de la cuisine, si vous me permettez cette expression ramassée, c'est que le long article à la table des hommes ne s'affirme à aucun moment comme une théorie du sacrifice grec, mais comme l'analyse du mythe de fondation du sacrifice tel qu'Hésiode l'a poétiquement composé. C'est une nuance qu'on ne fait pas toujours. En revanche, dans la leçon inaugurale, Vernon parle plus volontiers d'une théologie du sacrifice, dont je résume brièvement les grandes orientations. Premièrement, il s'agit de, je le cite, « saisir le sacrifice dans les significations, les valeurs, les fonctions qu'il assumait pour les Grecs archaïques et classiques ». Fin de citation. Installant donc résolument la réflexion dans la synchronie, l'analyse replace le sacrifice dans le système religieux, dont il constitue un élément, le système religieux étant lui-même replacé dans l'ensemble de la civilisation qui le porte. Une telle perspective à l'époque s'éloignait tant des visées rétrospectives de Walter Burkert que du modèle général de l'essai sur la nature et les fonctions du sacrifice de Hubert Emmaus. Deuxième point, une fois définie cette position théorique, il s'agit d'aborder le sacrifice sous deux aspects étroitement solidaires l'un de l'autre. Le sacrifice est d'une part une fête solennelle où les dieux sont invités et sont présents, la communication s'établissant ainsi entre le ciel et la terre. D'autre part, c'est une boucherie, on vient de le voir. Une boucherie, une cuisine ritualisée dont les détails concrets doivent être minutieusement pris en compte. Ce sont les détails rituels et prosaïques des manipulations sacrificielles qui permettent de discerner une théologie du sacrifice dont, je cite, « les mythes de fondation exposent très clairement le schéma ». Troisième point, même si Vernon évoque les mythes, il s'agit en fait essentiellement de ce qu'il appelle la faute de Prométhée, concernant, je cite, « la coupure qui s'est produite entre les dieux et les hommes ». Le sacrifice rappelle donc cette coupure et consacre, dans le rite même qui vise à conjoindre mortel et immortel, la distance infranchissable qui les sépare désormais. Fin de citation. Les règles alimentaires à l'œuvre dans l'opération installent dès lors chaque protagoniste à la place qui est la sienne. L'homme se retrouve entre bête et dieu, hein, on connaît le schéma, dans cette position particulière que l'agriculture céréalière et le mariage contribuent également à définir. Quatrième point, toujours donc tiré des aspects sacrificiels de la leçon, les procédures alimentaires excentriques, avec des guillemets, des orphiques et des pythagoriciens, de même que les pratiques dionysiaques du diasparagmos et du manger cru, viennent soutenir l'argumentation. La cuisine sacrificielle devient dès lors le révélateur efficace des positions respectives des uns et des autres à l'égard de l'ordre social et religieux de la cité, mais aussi de divers types de relations possibles avec la sphère divine. Alors, je suis extrêmement consciente que ce résumé est schématique et un peu réducteur, mais je voudrais encore souligner deux points. Tout d'abord, il faut remarquer l'ancrage résolument littéraire de la documentation exploitée par de telles analyses. Les 30 dernières années ont sur ce plan déplacé l'angle de vue. Aujourd'hui, on prend davantage en compte l'apport des inscriptions, et Gunnel Eckroth vient d'évoquer aussi tout l'apport des études ostéologiques. Les textes épigraphiques par dizaines offrent l'image de procédures sacrificielles diversifiées, même si cette image est souvent tronquée par le caractère très allusif de ces textes. Toutefois, et c'est le second point, cet élargissement documentaire n'a pas invalidé, loin s'en faut, deux impératifs qui ont été fortement mis en évidence par les analyses de Vernon. D'une part, la nécessité d'analyser au plus près les gestes concrets de toute procédure sacrificielle, et d'autre part, l'intérêt de s'interroger sur la signification plus globale de l'acte sacrificiel pour les membres de la société qui pratiquent ces sacrifices pendant des siècles. C'est ce qu'il appelait, je pense, la théologie du sacrifice. Les analyses de Gunnel Eckroth que vous venez d'entendre ont mis en évidence le premier impératif, celui de la prise en compte des détails et de l'aspect concret. Je voudrais pour ma part revenir sur le second, davantage la théologie. L'élucidation de la théologie du sacrifice par Vernon met fortement l'accent sur les questions de statut. Dans sa perspective, on vient de le rappeler, toute opération sacrificielle contribue à installer, à leur place respective, les protagonistes en présence. Alors, son argumentation brillantissime emporte l'adhésion, mais on ne peut ignorer qu'une telle perspective est avant tout commandée par la lecture du mythe de Prométhée tel qu'Hésiode l'élabore dans la Théogonie. Or, les objectifs du poème sont précisément de raconter la mise en œuvre du cosmos et la définition progressive de la part qui revient à chacun dans cet ensemble. La Théogonie est donc centrée sur les questions de statut. Les actes posés par Prométhée s'inscrivent sur cet arrière-plan. Toute la crise inaugurée à Mykonè décrit le point de vue divin sur la condition désormais allouée aux humains. Les hommes séparés des dieux leur devront l'hommage de l'offrande sacrificielle et il leur faudra s'unir à une épouse pour s'inscrire dans la continuité d'une descendance. Mais la querelle entre Zeus et Prométhée se situe en amont de la séparation définitive qui impose aux humains cette nouvelle modalité de communication avec les dieux. Le partage opéré par Prométhée n'est donc pas en soi un premier sacrifice, pas plus que la première femme, Pandora, n'est déjà l'épouse d'un humain puisque c'est un dieu qui la reçoit, en l'occurrence Épiméthée. Mais le partage du bœuf et cette première femme crée les conditions d'existence à venir de l'humanité selon le plan de Zeus. En outre, s'il est pertinent de parler d'une théologie du sacrifice et d'en définir les composantes, il faut toutefois reconnaître que le modèle prométhéen n'est pas la seule procédure sacrificielle en vigueur dans le monde grec. Par modèle prométhéen, j'entends donc l'offrande aux dieux des eaux blancs, dont Gunel vient de nous parler longuement, en l'occurrence les cuisses décharnées, donc les parties non comestibles de l'animal, mais d'autres aussi, comme on vient de le voir, alors que ce sont précisément les parts comestibles qui reviennent aux hommes. Un tel modèle, donc ce modèle prométhéen, offre une sorte de toile de fond sur laquelle viennent se dessiner toute une palette de motifs particuliers. Vernon lui-même parlait de schéma offert par les mythes de fondation. En effet, la part du dieu peut intégrer des morceaux de viande tout à fait mangeables, qui ne subissent aucune transformation par le feu. Ce sont les trapezomata dont on vient d'entendre parler. On constate dès lors que la représentation des dieux construite par les offrandes alimentaires est plus complexe que l'affirmation de leur incorruptibilité face à la mortalité des humains. Lorsque les sacrifiants déposent pour les dieux des aliments sur une table prévue à cet effet à côté de l'autel, ils puisent au registre très humain de l'hommage consenti à des personnages puissants. On emprunte ainsi les voies de l'hospitalité pour honorer les dieux. La théologie mise au jour par Vernon n'en est pas pour autant invalidée, mais la définition du statut respectif des acteurs ne relève plus dans ce cas d'une quelconque essence immortelle pour les uns, mortelle pour les autres. En l'occurrence, il s'agit de reconnaître la supériorité et la puissance du destinataire sur un plan vertical. Quant au plan horizontal, il est bien présent puisqu'il s'agit aussi de souligner la dignité particulière du prêtre ou de la prêtresse qui, au bout du compte, reçoit les morceaux de viande qui étaient déposés sur la table sacrée. Le sacrifice est donc bien le lieu d'une définition de statut, et cet apport des analyses de Vernon reste central. Toutefois, l'ancrage particulier du mythe de Prométhée chez Hésiode, que Vernon n'ignorait pas, pourrait avoir conduit à une surdétermination de cette composante consacrée par l'opération sacrificielle, donc la composante définition de statut, au détriment d'une autre qu'il évoque sans en analyser les modalités, à savoir la communication que cette même opération autorise entre des protagonistes qui sont désormais séparés. Or, du point de vue des acteurs du sacrifice, ce qui est le point de vue qui m'intéresse avant tout, cette communication avec un destinataire est évidemment un élément essentiel. Et là encore, les variations sur la trame sacrificielle sont pleines d'enseignements. Et relire Vernon implique dès lors, une fois remis en perspective le contexte précis de sa réflexion, d'explorer un aspect de la théologie du sacrifice qu'il a soulevé sans l'approfondir. Le constat est le suivant. Du point de vue de la communauté qui est engagée dans le rituel, procéder à un sacrifice permet de se mettre en rapport avec la sphère suprahumaine. Dans le cas du sacrifice sanglant d'un animal domestique, le seul dont je m'occuperai, l'animal en question devient un hiéreion, je reviendrai sur cette image, un hiéreion du moment où il est sélectionné et destiné à cette fin. Cette qualité particulière qui fait d'une bête d'élevage un hiéreion pointe vers le registre du hiéros, ce qui est l'une des manières grecques d'identifier la sacralité de quelque chose. La manipulation sacrificielle va donc dégager des parts sacrées, des hiera. L'une d'entre elles est la part pour le destinataire, que le modèle prométhéen identifie aux os de l'animal et qui se consume intégralement à la flamme de l'autel. L'autre est composée de morceaux de viscères grillés à la même flamme et consommés immédiatement. C'est ce que j'appelle ici la part rituelle. Les viscères sont absents du texte d'Hésiode, analysé par Vernant, qui était tout à fait conscient de cette absence. Il y a une longue note dans la cuisine du sacrifice qui l'explicite, et je ne pense pas que ce soit un silence, que ce soit une précaution embarrassée de sa part, comme on a pu l'écrire dans un article polémique assez récent. La consommation des viscères par les sacrifiants au moment où se consomme la part divine est comme un fragment de commensalité entre homme et Dieu au sein du sacrifice. Or, on l'a vu, c'est de séparation et de statut résolument différent que parle la crise de Méconée qui n'aimait décidément pas en scène un sacrifice proprement dit. À ces deux parts de hiera vient s'ajouter le reste des viandes de l'animal dont chaque sacrifice organise la répartition entre les membres de la communauté sacrifiante. Mais ce reste ne forme pas des hiera au même titre que les deux autres parts. Une telle modélisation de la thusia grecque ne rend pas compte des variations locales et il faudrait intégrer à la réflexion les autres parties de l'animal ajoutées à la part du destinataire, comme on l'a vu il y a un instant. Mais ce qui m'intéresse ici est d'abord la manière dont la communication s'établit et quand elle s'établit. Or, pour répondre à ces deux questions, il faut revenir inlassablement à l'étude du vocabulaire que les Grecs eux-mêmes utilisaient pour décrire ce qui se passait au cœur même de l'opération sacrificielle. Et en cela, relire Vernant va pour moi de pair avec une relecture des travaux de Jean Rudart, que j'évoquais tout à l'heure, dans cette proximité que Vernant soulignait. Et ce d'autant plus que vient de paraître, permettez-moi de faire un petit peu de publicité, que vient de paraître un essai sur la religion grecque, donc ça c'est l'ancien, la thèse de Jean Rudart de 58, mais nous venons, Philippe Bourgeot et moi, d'éditer des inédits de Jean Rudart, dont l'un s'intitule « Essai sur la religion grecque ». Il revient sur les questions de vocabulaire, voilà la couverture pour vous donner envie. Alors, jusqu'à présent, j'ai évoqué les parts que les Grecs désignaient sous le nom de hiera. La qualité sacrée évoquée par ce terme souligne à des degrés divers la reconnaissance par les humains que la chose ainsi qualifiée a une relation au monde divin. Elle se trouve, pour citer Rudart, sur une voie qui conduit du Dieu à l'homme ou de l'homme au Dieu. Ce qui présuppose que la communication entre les sphères humaines et suprahumaines est possible. En contexte sacrificiel, ce constat est activé. Ce contact est activé. Et je pense que ce vase dit quelque chose de cet ordre-là. Et il est plus ou moins accentué selon que les hiera s'envolent ou non en fumée. Mais comment se jouait le contact? Comment les Grecs se le représentaient-ils? Nous ne disposons d'aucune exégèse native sur ce point. Cependant, un observateur de l'intérieur du système nous a conservé quelques descriptions intéressantes. Cet observateur, vous aurez compris que c'est une de mes obsessions de ces dernières années, est l'infatigable Pausanias qui parcourait la Grèce romaine au IIe siècle de notre ère en décrivant notamment les pratiques religieuses des cités visitées. C'est un peu tard, me direz-vous peut-être, pour évaluer la portée du sacrifice classique. Certes, il convient d'être prudent sur ce point. Toutefois, le vocabulaire que Pausanias utilise pour décrire les sacrifices est attesté bien avant lui dans des emplois comparables. L'arrière-plan des représentations qu'il met en œuvre à l'époque romaine semble donc bien solidaire d'une théologie du sacrifice plus ancienne, même s'il en fixe le lexique plus rigoureusement que d'autres. En cela, il est un observateur de l'intérieur légèrement décalé. Or, quand il s'agit de désigner de manière un tant soit peu technique, l'opération qui consiste à faire se consumer les hiera pour une divinité à l'intérieur de la thusia, Pausanias utilise le verbe katagizein qui signifie étymologiquement, mais entièrement, dans l'agos. Cela signifie que sur le plan des représentations, la transformation à laquelle le feu soumet la part divine désignée par le terme de hiera l'a fait passer dans une dimension qui a un rapport avec l'agos. Comme les hellénistes parmi vous le savent, l'agos est une notion très difficile à circonscrire et Vernant l'avait discuté en 1953 dans un compte-rendu de l'ouvrage de Louis Moulinier sur le pur et l'impur dans la pensée grecque. Si l'on suit les analyses, ce que faisait Vernon d'ailleurs, si l'on suit les analyses linguistiques de Pierre Chantraine et Olivier Masson, l'agos s'enracine à la même formation que les mots autour de agnos, agios. J'ai préféré translittérer le grec pour être sûr de ne pas avoir des bizarreries au moment de la projection PowerPoint. Donc, agnos et agios, et ces adjectifs relèvent, tout comme hieros, du registre de la sacralité, mais avec une différence de point de vue. La famille de hieros objective la perception humaine d'une relation au monde divin et ce que je pourrais appeler sa gestion normalisée. Celle de agnos caractérise davantage les comportements qu'impose une relation alors considérée comme particulièrement délicate avec cet autre niveau de réalité. Délicate et donc redoutable. C'est la raison pour laquelle l'adjectif relève aussi, je parle de agnos, du registre de la pureté. Revenons au verbe kataghizein. Qu'en est-il de l'agos impliqué dans la combustion sacrificielle ainsi désignée ? Le substantif agos n'est pas très courant, mais la majeure partie de ses emplois font référence à la sanction qui frappe un individu ou une communauté à la suite d'une faute religieuse. L'agos n'est pourtant pas synonyme de souillure. Il s'agit davantage dans les contextes négatifs de quelque chose qui ressemble à une malédiction, trouvant sa source dans la sphère divine. Toutefois, l'agos est davantage ambivalent que ne le laissent entendre les emplois du mot dans un tel registre. Ainsi, prononcer un serment peut rendre énagès, c'est-à-dire soumis à la punition des dieux en cas de violation du discernement. Mais dans ce cas précis, la consécration n'est pas forcément une malédiction, dans la mesure même où la punition divine est conditionnée par la violation du serment. On ouvre une possibilité, elle n'est pas nécessairement activée. Être énagèse d'une divinité signifie alors se soumettre à son jugement en fonction d'un comportement déterminé. La personne énagèse, je parle toujours du serment, est placée plus intensément que quiconque sous le regard d'un dieu ou des dieux dans une situation délicate. Pour se représenter le mécanisme à l'œuvre, c'est l'image d'un canal de communication direct avec la sphère divine qui s'impose, avec une charge en l'occurrence particulièrement redoutable. L'agos peut donc désigner les stigmates de la colère divine, la punition elle-même, mais renvoyée aussi d'une manière moins chargée à l'interface qui rend la communication entre les sphères séparées de l'humain et du divin tout particulièrement intense et donc d'autant plus efficace. L'existence d'un adjectif euages invite à aller dans ce sens. Chez Sophocle, par exemple, Antigone l'utilise au neutre pluriel pour désigner les actes qui plaisent aux dieux d'en bas. Mais ce type d'emploi est relativement rare. Dans nos sources, les références à l'agos se feront le plus souvent autour des dysfonctionnements de la relation au dieu. L'utilisation du verbe kataghizein dans le cadre du sacrifice sanglant de type alimentaire, pour reprendre la traduction la moins mauvaise de Tucia, atteste néanmoins que le fonctionnement normal de la communication dans l'opération sacrificielle appartient au même registre. Au-delà de la prière qui invoque le dieu, la combustion de la part qui lui revient le convoque, j'ai envie de dire, en ouvrant l'agos. Et en consommant les viscères grillés au moment précis de cette combustion, c'est bien l'image d'une forme de commensalité qui se dessine entre un petit cercle de sacrifiants qui mangent près de l'autel, tandis que le destinataire reçoit sa part. On pourrait sans doute aller plus loin dans la discussion avec les os de la théoxénie dont Gunel vient de mentionner. La contre-épreuve viendra d'un autre terme étroitement apparenté au verbe kataghizein. Il s'agit du verbe enagizein qui a fait couler beaucoup d'encre. Je vous ai parmi les références, c'était un peu inutile. Le sens du verbe pose davantage problème que dans le cas de kataghizein. Alors que chez Pausanias, toujours, ce dernier, kataghizein, se réfère à la combustion de la part divine à l'intérieur de la thucia, et la gizein désigne essentiellement la combustion intégrale d'une offrande, ou éventuellement le versement d'une libation, c'est pas toujours très clair de savoir ce qu'il y a derrière le mot, en tout cas c'est une déperdition de quelque chose, totale, à destination d'un défunt ou d'un héros. Le verbe exclut donc tout partage. Il s'agit du terme marqué de la combustion sacrificielle. Mais que signifie enagizein ? Dans son compte-rendu de 1953, Vernon contestait la traduction de Louis Moulinier « agir en énagès », que Jean Casabonin, dans une étude sur le vocabulaire du sacrifice, reprendra pourtant plus tard. Quoi qu'il en soit, de ce point strictement philologique, l'opération, donc l'enagitzen, consiste à faire se consumer entièrement une offrande pour des destinataires que leur statut ne conduise pas à convoquer comme on le fait lors d'une tussia. Au contraire, il convient dans ce cas d'en conjurer la manifestation négative. On les honore, mais on les tient à distance. La procédure sacrificielle de l'enagitzen ouvre donc elle aussi la gosse dans une certaine mesure, mais cette fois la communication s'opère à sens unique. Les sacrifiants honorent une figure suprahumaine qui reste à distance, le tout sous le regard des dieux. Parmi les procédures sacrificielles, on trouve aussi, et Gunel l'a rappelé aussi, ce que l'on appelle de manière un peu lâche des holocaustes. Cette combustion intégrale d'un animal, qui est une procédure sacrificielle relativement rare en Grèce, donc cette combustion intégrale d'un animal, donc qui peut rentrer dans le registre de l'enagitzen, n'a pas la même signification dans tous les cas. Pour un dieu dont le contact n'est pas porteur de souillure, la combustion intégrale d'un animal, j'ai envie de dire, devait permettre une ouverture maximale de la gosse, et donc une convocation plus impérieuse. Pour un défunt ou un héros dont la part mortelle se traduisait par la présence d'un tombeau, la même combustion n'était pas une convocation. C'était une communication à sens unique avec des puissances dont le contact était potentiellement porteur de souillure, mais qui réclamait l'hommage des vivants. D'une certaine manière, le sacrifiant agissait alors en énagès le temps du rituel, en activant une source potentielle de souillure, mais il ne se consacrait pas lui-même, comme dans le cas d'un serment. Et voilà un peu le petit schéma un peu basique pour illustrer ce que je viens de dire. Alors, restituer cette théologie de la communication que Vernant n'avait pas approfondie et que j'ai tenté donc de recomposer en repartant des mots, est un exercice difficile dans la mesure où il n'échappe pas à une part de spéculation sur la manière dont s'ordonnaient les représentations grecques du sacrifice. En outre, je suis très consciente que le lexique utilisé par Pausanias, dont je suis partie, exacerbe la polarité de la sphère de l'agos à l'œuvre dans l'opération sacrificielle. Le kataghidzein est pour lui exclusivement du côté des dieux et l'enagitzein du côté des défunts et des héros dont la part mortelle était ainsi mise en évidence. Mais si Pausanias a sans doute exacerbé l'opposition, elle n'est pas pour autant gratuite, car la question du statut du destinataire s'y trouve étroitement chevillée. Or, comme Vernant l'a montré, le sacrifice est bien le lieu de la détermination des statuts. Dès lors, la définition d'une procédure qui permet de communiquer avec les dieux et d'une autre pour les défunts et certains héros va aussi dans ce sens. Il s'agit de gérer le contact avec une sphère suprahumaine peuplée de figures diversifiées qu'il faut honorer en fonction de leur statut, dont on attend des bienfaits dans un grand nombre de cas, et dont il faut se prémunir dans d'autres. Les contextes spécifiques d'une telle gestion rituelle expliquent sans doute pour une part, et ces contextes évidemment nous échappent, la variété des procédures à l'œuvre dans le système sacrificiel des Grecs. Et il faut reconnaître que nous ne sommes pas toujours armés pour les comprendre dans le moindre détail. Mais s'arrêter au seul détail, en dresser l'inventaire, et puis finalement constater leur irréductibilité à toute vue d'ensemble, ne permet guère de rendre justice à un système qui était suffisamment cohérent pour avoir fonctionné pendant des siècles. Pour reprendre la métaphore du tissage que j'ai évoquée plus haut, identifier la trame sous-jacente aux motifs singuliers qui viennent s'y nouer reste un passage obligé. L'étude de la théologie du sacrifice grec telle que la préconisait Vernant reste pour l'historien la condition d'intelligibilité d'un système qui, sans cela, se perdrait dans l'émiettement des pratiques singulières. Et en cela, relire Vernant est extrêmement fécond. Je vous remercie.